au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle est retournée et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il insuffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous voyons donc Jésus ressuscité. Il porte les marques de la crucifixion. Il se fait reconnaître par là. La résurrection n'abolit pas la crucifixion. Ce n'est pas comme une gomme qui va effacer tout ce qu'il y avait, tout ce qui s'est passé sur la croix. Non. On peut reconnaître le crucifié dans le ressuscité. On peut le reconnaître dans le ressuscité, celui qui est mort sur la croix. Et inversement, on peut aussi dire, on peut reconnaître dans le crucifié, celui qui le ressuscité. Nous avons eu un culte de Vendredi Saint il y a 2 jours ici. Nous avons simplement été mis en présence du Seigneur Dieu, uniquement par la lecture du récit, de la passion, de la mort, de l'enterrement. Il a vraiment été enterré, Jésus. La simple lecture, surtout dans l'évangile de Jean, nous met devant la résurrection. Celui qui est mort sur cette croix est mort pour nos péchés. C'est une certitude. Et en même temps, il nous ouvre l'accès au Dieu qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire son Père, et qui est devenu, par la montée de Jésus vers le ciel, il est devenu notre Père. C'est le message que Marie, la Magdaléenne, celle de Magdala, c'est un village près du lac de Galilée, elle doit dire aux apôtres, va trouver mes frères, dit Jésus, et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Avant, on n'avait pas de Dieu, on avait des idoles, nous tous. Les Juifs avaient le vrai Dieu. Et par la venue de Jésus, ce Dieu qui s'est révélé aux Juifs, se révèle à nous maintenant aussi. Par Jésus, par Jésus, le roi des Juifs, se révèle à nous comme étant notre Dieu. Et il ne suffit pas non plus de savoir qu'il y a un seul vrai Dieu, il faut être membre de son peuple et dans une relation d'alliance avec lui. L'alliance est accomplie. À quoi on reconnaît que l'alliance est accomplie? Chaque fois que Jésus vient, il est venu deux fois vers les 12, qui n'étaient plus que 11. Il est venu deux fois. Et comment il introduit chaque dialogue? La paix. La paix, c'est quand il n'y a plus de dette. La paix, c'est quand l'alliance est garantie et accomplie. Quand Dieu est vraiment avec nous en relation d'alliance. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes dans une relation d'alliance avec Dieu, que nous n'avons pas créée? Alors peut-être on a déjà fait des démarches vers le Seigneur, mais ce n'est pas ça qui crée la relation. Ce qui crée la relation avec nous, l'alliance entre Dieu et nous, c'est l'amour de Jésus. Son sang versé. Et sa mort, dans sa mort, nous voyons la résurrection. Nous la voyons déjà. Nous avons été saisis par cette présence de Dieu dans la mort de Jésus, vendredi dernier. Dans l'évangile de Jean, il y a même un témoignage très très puissant. Quelque chose qui s'est passé après la mort de Jésus. Quand il avait déjà expiré. Quand il n'était plus vivant. Il était mort. Les soldats romains ont vérifié qu'il était mort. Donc on n'avait pas besoin de lui rompre les jambes comme ils l'ont fait aux deux autres qui étaient encore vivants. Comme ça, c'est accompli l'écriture qui parlait d'un agneau pascal qui ne doit avoir aucun os brisé. Aussi un psaume qui dit « Aucun de ses os ne sera brisé ». C'est un psaume qui disait ça aussi. Tout est accompli. L'écriture s'accomplit. C'est comme ça que la foi vient à nous quand nous voyons quelle correspondance il y a vraiment entre Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu, comment il est mort, et puis l'écriture. C'est plus difficile de trouver les textes qui annoncent la résurrection. Mais Jésus a su lire l'écriture. Et il nous ouvre l'intelligence de l'écriture. C'est par l'écriture, par l'Ancien Testament, associé au Nouveau Testament, que vient la lumière dans notre cœur de cette résurrection. Alors, je vous disais, on peut reconnaître le ressuscité déjà dans le crucifié. Parce que tout est vivant, même quand il est mort. Donc, un soldat lui perce le côté avec une lance. Et il y a un témoin, le disciple qui écrit l'évangile de Jean. Il dit, de l'eau et du sang sont sortis de ce côté percé. C'est ce côté percé qu'il peut encore montrer dans sa résurrection. Et le témoin qui écrit cela, il dit, il sait qu'il dit vrai, celui qui atteste ce témoignage visuel. Parfois, on se crée des souvenirs qui sont faux. On est sûr d'une chose, et puis quand il y a un deuxième témoin, un troisième témoin, qui ont vécu le même événement que nous, ils nous disent, ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais là, il y a un témoin qui dit, de l'eau et du sang sont sortis de son côté percé. L'eau, c'est toujours le symbole de la parole de Dieu ou de l'Esprit de Dieu dans la Bible. Le sang, c'est la vie. L'âme est dans le sang, la vie. Le sang était apporté dans le lieu très saint par le grand prêtre. Le jour de Kippour, une seule fois dans l'année, il y avait l'accès au lieu très saint où il y avait la présence même de Dieu. C'était une seule fois par an. Eh bien, le grand prêtre apportait du sang. Il n'entrait pas sans avoir apporté d'abord du sang, sans déposer du sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est ce couvercle de l'arche de l'alliance, qui s'appelle aussi le coffre
du témoignage. Et sur ce propitiatoire, il fallait mettre le sang. Ce propitiatoire est aussi, à chaque bout, c'est un coffre rectangulaire, et à chaque bout, il y a des kéroubim, des chérubins, qui ont, on ne sait pas exactement ce que c'est des êtres célestes, mais ils ont un visage humain, et ils ont des ailes. Et il y a exactement, à l'endroit où Jésus, le corps de Jésus avait été déposé, Marie, la Magdaléenne, elle voit un ange au pied, un ange à la tête. Jésus, son corps est pour nous le lieu où nous entrons dans la présence de Dieu. Son corps, nous n'entrons pas autrement dans la présence de Dieu que par le corps crucifié, ressuscité de Jésus. Dans l'évangile de Jean aussi, il y a un disciple qui pose une très bonne question à Jésus avant sa mort, Philippe. Jésus a enseigné avant sa mort et dit « Je vais disparaître, vous ne me verrez plus, mais après vous me verrez à nouveau. » Et alors, votre tristesse de m'avoir vu disparaître se transformera en joie. Alors Philippe lui dit, attends, qu'est-ce que tu nous racontes là? Le Messie ne doit pas se révéler au monde entier. Tu nous dis que tu vas te faire voir uniquement à nous. Pourquoi? Et Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Les disciples sont ceux qui ont gardé les paroles de Jésus. Ils ont déjà fait plusieurs fois l'expérience de la résurrection. Simplement en entendant des paroles de Jésus. Et nous pouvons tous faire cette expérience en ouvrant la Bible. Tout d'un coup, une parole devient pour nous une action de Dieu. Qui nous ressuscite, qui nous crée quelque chose en nous que nous n'avions pas. À la place d'une tristesse, il y a une joie qui s'installe. À la place de la haine, il y a la paix qui s'installe et l'amour, même de ceux qui nous ont fait du mal. Quelque chose se passe que nous ne pouvons pas créer. Ça, c'est la parole de Dieu. Et combien de fois nous pouvons faire cette expérience en écoutant simplement les paroles que nous avons de Jésus dans l'Évangile. Parfois c'est telle parole, parfois une autre. Et on n'oublie jamais quand Dieu nous a parlé par un verset de la Bible. Ça ne s'oublie jamais, ça reste toujours. C'est parce que la parole de Dieu est vivante éternellement. Donc les apôtres ont fait cette expérience. Ils ont gardé les paroles de Jésus. Ils ont déjà fait plusieurs fois l'expérience de la résurrection. Alors on se dit, mais alors, pourquoi nous raconter alors cette résurrection de Jésus ? Bien, voyez-vous, ça apparaît aussi dans l'évangile de Jean. Malgré le fait que l'apôtre Pierre en tête, Simon Pierre, était le représentant des douze, quand il dit à Jésus, dans Jean 6, après la multiplication des pains, « À qui d'autre irions-nous ? » Jésus leur dit, « Vous pouvez partir. Si vous acceptez pas mes paroles, je ne vous retiens pas. » Alors Pierre dit, « À qui irions-nous, Seigneur ? » Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc il avait reçu vraiment le miracle de la foi avant la résurrection. Mais ça n'a pas tenu. Cette foi n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu. Parce que trois fois, lors de l'arrestation de Jésus, il dit, non, je ne suis pas. Je ne suis pas, disciple de cet homme. Trois fois il a dit, je ne suis pas. Mais, juste avant qu'il dise ça, Pierre, et ça c'est dans l'évangile de Jean, il y a trois fois Jésus qui dit, je suis, trois fois. Quand on vient l'arrêter, il dit, qui cherchez-vous ? Il dit, Jésus de Nazareth, je suis. Trois fois, il leur dit, je suis. Et la première fois, ils tombent tous à la renverse. Parce que c'est la façon dont Dieu se présente à Moïse, dont Dieu est venu libérer les Juifs d'Égypte. Je suis. Les forces adverses doivent s'écarter quand celui qui dit « Je suis » vient. Et Pierre, ces trois fois où il dit « Je suis », »,« Je ne suis pas », lui il dit « Je ne suis pas », il est notre représentant, nous sommes des croyants qui sont faibles, et ça se peut qu'un jour on dise « Je ne suis pas ». Non, je ne suis pas disciple de cet homme. Surtout quand il faut avoir, quand on est devant des choix difficiles où on risque d'être tué, comme ça se passe pour des millions de chrétiens aujourd'hui. Et ça s'est passé tout de suite dès le début du christianisme, on avait ce problème des chrétiens qui, devant la peur de la mort violente, ont dit « Je ne suis pas, non, je ne suis pas disciple ». Et après, les persécutions étaient sporadiques dans l'Empire romain pendant 3-4 siècles. Après, quand le calme était revenu, ils revenaient à l'église. Que fallait-il faire? Fallait-il accepter ceux qui avaient renié leur foi pour sauver leur vie? On avait l'exemple de Simon-Pierre, il a renié. Et Jésus l'a réintégré. Car lui seul peut tenir. Et c'est ça, confession de foi à lui, Jésus, qui va toujours porter la nôtre. Or, nous aurons des moments où on verra plus la foi, peut-être, en nous. On aura beau chercher, on aura beau prier, je n'ai plus la foi. Il y a des gens qui souffrent trop. Il y en a qui souffrent trop, ils peuvent même plus dire qu'ils croient. Mais c'est pour ça qu'il y avait besoin que la résurrection soit attestée, soit vraiment extérieure à nous, témoignée de façon extérieure à nous, mais en même temps sans qu'on puisse plus en douter. Et c'est donné juste seulement aux apôtres et aux femmes. Marie, la Magdalène, c'est donné ici dans l'Évangile. Leur vie n'était, ils n'étaient plus les mêmes, les apôtres. Marie, la Magdalène, n'était plus la même. Et à quoi on reconnaît qu'ils n'étaient plus comme avant? C'est que Jésus a des actes de création à leur égard. Quand il arrive, il est d'abord, le texte dit, quand il apparaît ressuscité, toujours au milieu. On ne nous dit même pas au milieu du groupe des disciples. On nous dit, il est au milieu. Donc, pas seulement au milieu des disciples, au milieu de la création, au milieu de ce monde de ténèbres, au milieu de ce monde qui s'oppose encore à la parole de Dieu et qui a une grande liberté aussi de tuer les croyants. Mais Jésus est au milieu. On ne pourra pas le déraciner du milieu. Lui, le ressuscité, il est au milieu. Et ça apporte la paix. Et après, il dit, non, il ne dit pas quelque chose, il insuffle, il souffle dedans, il souffle dans les disciples. Il souffle. C'est le geste du Dieu créateur dans la Genèse. Quand il avait modelé Adam avec de l'argile, il a insufflé du souffle, de son propre souffle. Eh bien ça, c'est ce que Jésus ressuscité, il fait. Et si nous n'avions pas ce souffle insufflé en nous, notre foi ne tiendrait pas. J'ai souvent employé cette image pour qu'on comprenne ce que c'est la foi. Est-ce que vous croyez que je peux faire tenir debout ce stylo dans ma main là? Est-ce que je peux le faire tenir? Est-ce qu'il peut tenir debout?
Non.
Et regardez, il peut même tenir debout sans la main en dessous.
Oui.
parce qu'on peut dire donc cette main-là, à laquelle on ne pensait pas, mais ça c'est notre sol, notre terre, notre être, notre condition humaine, la main gauche, mais celle-là qui tient le stylo, c'est le souffle de Dieu en nous, et lui nous fait tenir debout, même si nous on ne sait plus comment tenir debout.
Le souffle de Dieu est insufflé à la résurrection. Aujourd'hui, il faudrait fêter la Pentecôte d'après l'évangile de Jean. C'est Luc qui sépare résurrection et puis 50 jours après, Pentecôte, le don de l'Esprit. Mais dans Jean, tout est concentré en Jésus, élevé sur la croix. Il transmet l'Esprit. Et là, on le voit l'insuffler en ses disciples. La réception du Saint-Esprit est déjà racontée ici, au moment de la résurrection. Et il les envoie avec un ordre de mission. J'aime pas trop le mot mission parce qu'on pense que ça concerne que les missionnaires, mais on a quelque chose à faire dans ce monde, maintenant qu'on a reçu le souffle du ressuscité. Ceux à qui vous remettez les fautes, elles leur seront remises, et ceux à qui vous les retenez, elles leur seront retenues. Voilà ce qu'on a à faire, maintenant que le souffle du ressuscité nous est communiqué. Pour comprendre le thème du péché dans Jean, il faut juste se reporter au début de l'évangile, parce que la première chose qui nous est dite de Jésus par un homme, par le plus grand de tous les prophètes, qui est Jean-Baptiste. La première chose que Jean-Baptiste nous dit de Jésus, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le péché du monde n'est plus dans le monde. Il a été enlevé. Parce que le verbe « enlever » est aussi employé dans ce récit, dans Jean 20, Marie la Magdaléenne, elle dit aux disciples, ils ont enlevé le corps. On ne sait pas où ils ont mis. Ah oui. Mais bon, vous pouvez toujours le chercher sur la terre, le corps de Jésus, il n'y sera plus. Donc le péché qu'il porte dans son corps, il n'est plus sur terre. Vous pouvez chercher votre péché partout sur la terre. Il est déjà au ciel, dans le corps de Jésus. Il est l'agneau dans le ciel. Il est l'agneau immolé et il se dresse. Il se dresse. C'est la vision que nous avons dans l'Apocalypse. L'agneau immolé et il se dresse. Il est immolé parce qu'il est mort pour nos péchés, comme nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Voilà, nous avons à transmettre ce message à tous, à le vivre tout simplement. Ah, vous avez les péchés, vous m'avez fait du tort. Ah oui. Vous m'avez blessé, ah oui. Vous m'avez fait beaucoup, beaucoup de mal. Ce péché, il n'est plus sur terre. Votre faute, elle est dans l'agneau, dans le ciel. Et parce que je crois en cet agneau, je ne vais pas vous compter votre faute. Je ne vais pas la compter. Je ne vais pas la retenir. Je ne vais pas l'incruster dans ma tête, dans mon cœur. Vous êtes pour moi un frère pour qui le Christ est mort. Vous êtes pour moi une sœur. C'est différent, les relations sont différentes. Voilà ce que nous avons à vivre à cause de la résurrection de Jésus. Encore une fois, nous avons un témoignage de la résurrection de Jésus. Ça, c'est moins long que le récit de la Passion. Hein. Mais quand même, ce témoignage de la résurrection de Jésus, visuel, et c'est pas des apparitions, hein. Faites bien attention de ne pas dire qu'il y a des apparitions du ressuscité. Chaque fois, dans l'évangile de Jean, peut-être dans les autres évangiles, il y a le mot apparition. Ce ne sont pas des apparitions. Le texte n'emploie jamais ce mot dans Jean. Ce sont des venues. Jésus est venu. Jésus ressuscité, avant de monter vers son Père, plusieurs fois est venu vers les siens. Il est venu. Il vient à nous. Quand nous nous approchons de la Sainte Seine, il vient. C'est parce qu'il vient vers nous que nous venons vers la Sainte Seine, que nous venons prendre le pain et le vin. Il vient. Il vient vers nous. C'est le verbe venir. D'ailleurs, au présent, Jésus, dans Jean, À un moment donné, il dit, je m'en vais et je viens au verbe, au présent, je viens vers vous. Il ne vient pas seulement à la fin des temps. Bien sûr, nous attendons cette venue à la fin des temps qui mettra fin à toute cette souffrance sur terre. Il y a tout ce mal qui augmente. On a l'impression qu'il augmente, mais nous croyons qu'à cause du ressuscité, qui est au cœur, au milieu du monde, au milieu de nous, la grâce surabonde là où le mal abonde. Et la grande grâce qui va surabonder, c'est la venue de Jésus et la résurrection des morts. Alors, en attendant, dit un apôtre, ne jugez pas, parce que ça ne nous appartient pas. Nous n'avons qu'à vivre le pardon, et puis le juge, il est à la porte, il va venir. Laissons-lui tout ce que nous... C'est pas notre rôle, mais notre rôle est de vivre le pardon qui est dans l'agneau maintenant à la droite de Dieu, dans le cœur du trône même de Dieu, au milieu du trône. Vous voyez, encore une fois, dans l'Apocalypse, on nous dit, il est au milieu, l'agneau est au milieu du trône divin. Voilà donc le témoignage de la résurrection. Nous l'avons dans notre cœur, mais parfois il peut disparaître de notre cœur. Mais il disparaîtra pas de ce monde, car il y aura toujours une église dans ce monde dans laquelle le témoignage de la résurrection sera établi. Car nous sommes dans l'église fondée sur les apôtres. Notre église est toute église de Dieu est toujours fondée sur le témoignage apostolique. Les apôtres ont été les témoins. Il y en a eu des centaines. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 qu'il y avait plus de 500 frères ont vu Jésus. Tous n'ont pas écrit. Mais l'Église garde comme une trace génétique en elle, spirituellement. Elle a une trace génétique de ces venus du ressuscité. Qu'on peut décrire avec des mots, mais qui dépassent tout entendement, mais qui sont décrits de façon que nous soyons sûrs que ce n'est pas juste un événement intérieur, la résurrection. C'est un événement qui s'est imposé aux apôtres et nous ont écrit le témoignage de ce qu'ils ont vu. Ils ont pu toucher. Thomas est appelé le jumeau, on ne parle jamais de son jumeau, peut-être c'est nous le jumeau de Thomas. Chacun de nous est jumeau de Thomas, c'est-à-dire nous voudrions toucher, nous voudrions voir. Et Jésus ne va pas contre, il ne faut pas mal interpréter ce qu'il dit à Thomas, il ne va pas contre ce désir, mais sa parole est beaucoup plus merveilleuse encore. Et Thomas, je ne pense pas, et je suis content d'avoir trouvé un exégète qui pense comme moi d'ailleurs, que finalement Thomas a touché, il n'a pas touché Jésus. Il aurait pu parce que Jésus l'a autorisé. Mais il était tombé dans l'adoration. Mon Seigneur, mon Dieu, la parole de Jésus a été suffisante pour le faire croire. Alors elle est aussi à notre disposition dans la Bible et maintenant dans la Sainte Cène.